Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Bastien Alex, chercheur à l'IRIS et qui est responsable au sein de cette institution de l'Observatoire Défense et Climat. Vous avez travaillé sur les questions d'environnement, de protection du climat et ses impacts stratégiques. Quel bilan tirez-vous de la COP24 qui vient de s'achever à Katowice aujourd'hui?
Alors, la COP24 apparaissait au départ comme une COP technique, mais elle est bien tout autant politique que la COP21, donc qui nous a permis d'arriver à l'accord de Paris en 2015. L'idée de cette COP, c'est tout simplement de parvenir à l'élaboration du règlement de mise en œuvre de l'accord de Paris. Pour l'instant, l'accord de Paris existe. Maintenant, pour qu'il soit effectif et rentre véritablement en œuvre à partir de 2020, il faut décider de ses modalités d'application. Et évidemment, c'est des débats qui sont très politiques. L'objectif numéro un, bien sûr, c'est de travailler d'abord au rehaussement des ambitions de réduction des émissions. Vous savez qu'on doit limiter l'augmentation de la température à 2 degrés d'ici 2100, et pour cela, il faut agir sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc l'idée, c'est encore une fois de se répartir l'effort, ce qu'on appelle le burden sharing, donc se répartir l'effort de réduction des émissions. Et évidemment, là-dessus, il y a des dissensions assez fortes entre les États qui ont été aussi causées par la décision de certains de vouloir sortir des accords. Donc ça, c'est le premier objectif, parvenir à un rehaussement des réductions d'émissions, puisque pour l'instant, on n'est pas du tout sur cette trajectoire de 2 degrés, voire 1,5 degré, hein, qui a été donc tracée par le GIEC, sur laquelle les États se sont entendus en 2015. On est plutôt sur une trajectoire de 3,2 degrés. Et là, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est donc le rapport sur les émissions, le gap sur les émissions qui nous l'a fourni, cette appréciation. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'augmenter nos objectifs de réduction pour arriver à se mettre sur cette trajectoire de 2 degrés, voire 1,5 degré.
Donc il y a un engagement global, et ensuite, au sein de cet engagement global, il y a des engagements État par État qui ont une sorte de feuille de route, un engagement national de réduire leurs émissions. Comment cela se passe? On a quand même beaucoup parlé d'un échec par rapport à cette COP24 qui s'est tenue en plus avec un président polonais qui a accueilli en tenue de mineur le secrétaire général des Nations Unies.
Oui, alors évidemment, c'est toujours le même problème au sein des COP. L'idée, c'est de réussir à mettre d'accord 196 parties sur des objectifs de réduction, sachant que pour certains pays, ces objectifs de réduction vont quand même grandement miner leur croissance et portent atteinte à leur modèle de développement. Donc l'échec, il est toujours celui que l'on connaît depuis à peu près 2009. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'en 2009, au moment de l'échec de la conférence de Copenhague, on a finalement renversé la hiérarchie des normes. Auparavant, c'était le secrétariat de la Convention climat qui fixait les objectifs de chaque État. Depuis 2009, on est passé à un système dit de top-down à bottom-up, où ce sont les États qui proposent des objectifs de réduction. Donc évidemment, les objectifs proposés par les États sont moins ambitieux que ceux que voudrait le secrétariat de la Convention climat. Donc aujourd'hui, il y a effectivement cette bataille pour en faire le moins possible, et on négocie finalement sur le gap à combler entre ce que proposent les États, qui nous placent sur une trajectoire 3,2, et ce qu'on devrait faire, qui devrait nous placer normalement sur une trajectoire 2 degrés. Alors évidemment, la Pologne est accusée à juste titre d'être un pays qui est plutôt un mauvais élève en Europe, hein, qui a tendance à bloquer le rehaussement des ambitions au niveau européen. C'est pas le seul pays, hein. L'Allemagne n'est pas non plus un grand défenseur du rehaussement des ambitions. Évidemment, le président polonais a surfé aussi sur la crise des gilets jaunes en France. Mais là, on comprend bien la limite du processus. C'est comment faire pour que 196 parties, encore une fois, se mettent d'accord quand elles ont des modèles de développement totalement différents, des intérêts stratégiques et économiques totalement différents. Aujourd'hui, la Pologne produit 80% de son électricité à partir du charbon. On comprend qu'elle et pas exactement la même attitude que la Suède dans un processus qui pourrait mettre à mal son secteur charbonnier qui est vital pour elle.
Encore, la Pologne reste signataire des accords de Paris. Mmh. Il y a un pays qui les a quittés, les États-Unis. Il y en a un autre, et non des moindres, le Brésil, qui menace de suivre la voie tracée par Donald Trump. Est-ce que ce départ déjà enfin annoncé et acté des États-Unis et probable du Brésil vient tuer dans l'œuf les accords de Paris, ou est-ce qu'ils peuvent survivre au départ à la fois des États-Unis et du Brésil, où, faut-il le rappeler, se situe l'Amazonie, qui est considéré comme le poumon de la Terre?
Alors, concernant l'annonce de sortie des accords de Paris, pour l'instant, on est toujours dans l'annonce, hein, côté américain. Donc, ça a été dit par Donald Trump, c'était un objectif de sa campagne aussi, une promesse de campagne. Donc, il l'a annoncé quelques mois plus tard, je crois que c'était en juin, 1er juin 2017. Lui, donc, sa volonté d'en sortir, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, il ne peut pas encore sortir, puisqu'il y a des dispositions qui servent de pare-feu. La décision de sortir d'un accord qui a été, en tout cas, adopté et signé par son prédécesseur ne peut pas être effective tout de suite. Donc l'idée, c'est que le délai se décalerait dans le temps jusqu'à 2020 et que peut-être, s'il y avait un autre président élu en 2020, il pourrait revenir sur cette décision. Mais concrètement, pour l'instant, l'annonce de Donald Trump a eu un impact, par exemple, sur la promesse de participation des États-Unis au financement de la lutte contre le changement climatique. Là, il y a plusieurs milliards de dollars qui ont été gelés et qui ne seront pas versés au fonds vert qui contribue à cette fameuse enveloppe de 100 milliards de dollars par an. Donc les États-Unis ne sont pas encore complètement sortis. Par contre, évidemment, l'annonce du pays...
Oui, parce qu'il y a deux types d'engagement dans l'accord de Paris. Il y a l'engagement de réduction des gaz à effet de serre et l'engagement pour certains pays, pour les plus développés, de contribuer à aider les pays les plus démunis à respecter cet engagement.
Voilà, donc Donald Trump, pour l'instant, agit sur les deux leviers, hein, puisque globalement, il ne va pas annoncer d'efforts supplémentaires de réduction. Il ne va pas donc annoncer non plus d'efforts supplémentaires de financement. La petite note d'espoir, c'est qu'à l'époque, quand il a fait cette annonce, il n'y a pas eu d'effet domino que l'on craignait, hein, c'est-à-dire une annonce de sortie en cascade des pays, ça aurait pu être le cas. Il a été très largement critiqué à la fois par la communauté internationale, mais également dans son propre pays, par des institutions, les États fédérés aussi. Hein. La Californie est en pointe sur la lutte contre la position de l'administration américaine, ce qui nous fait dire que ce dont on a besoin, c'est peut-être plus des États-Unis que de l'administration Trump dans la lutte contre le climat. Et à la fois des entreprises, des collectivités ont pris l'engagement de respecter en principe les accords de Paris.
De respecter leur logique. La ville de New York, la Californie, qui sont quand même des acteurs importants.
Oui. Donc ça, c'est, on va dire,
Mais par contre, eux ne financent pas. Ils ne participent pas au fonds vert. Ils vont limiter leurs émissions à effet de serre, mais ils ne vont pas participer au financement de la lutte globale.
Alors, ce qui est intéressant dans les évolutions récentes des négociations, c'est qu'on voit que les acteurs non étatiques se positionnent aussi maintenant sur les financements. Enfin, ça fait longtemps. Mais en tout cas, il y a une volonté parfois qu'on note de prendre le relais vis-à-vis des États qui peuvent se désinvestir du processus. Donc ça, c'est quelque chose de notable et d'important qui permet, alors non pas de, on va dire, d'atteigner totalement la portée du discours du président américain, mais en tout cas, dans les effets, ça permet de limiter l'impact du retrait à venir peut-être des Américains. Alors côté Brésil, effectivement, ça a été annoncé pendant la campagne, Bolsonaro voulait sortir des accords de Paris, qu'il considérait comme délétères pour l'économie brésilienne. C'est une position sur laquelle il est légèrement revenu aussi, je crois, entre les deux tours, en disant que, bon, pour l'instant, il considérait possible pour le Brésil de rester dans les accords, à la condition que leur application ne mette pas en péril l'économie brésilienne. Alors là aussi, il y aurait beaucoup à dire, mais on sent qu'il a un petit peu rétro-pédalé. Le problème aussi donc de cet accord de Paris, c'est qu'il n'est pas contraignant, que les États peuvent décider d'en sortir sans être victimes de sanctions, mais ça fonctionne sur un système qu'on appelle blame and shame, finalement de respect de la parole donnée, et la pression peut être exercée par les autres États partenaires à travers d'autres moyens. Par exemple, certains observateurs évoquaient la possibilité pour le Brésil d'être mis en défaut par ses partenaires s'il veut signer des accords de libre-échange ou s'il veut favoriser l'exportation de ses marchandises agricoles en Europe. Par exemple, l'Union européenne est globalement alors fait bloc avec les dissensions qu'on connaît à l'intérieur au niveau allemand et polonais, mais est aussi en mesure de négocier et de contraindre les pays qui veulent accéder à son marché de respecter l'esprit des accords de Paris. Donc c'est comme ça qu'on espère que l'accord pourra être mis en œuvre, et en tout cas les blocages pourront être limités. Mais encore une fois, il n'y a pas de sanctions prévues directement sur les pays qui n'en respecteraient pas l'esprit.
À l'inverse des États-Unis, la Chine, qui était considérée comme le très mauvais élève de la classe climatique et qui avait signé de façon qui avait un peu surpris les observateurs un accord bilatéral avec les États-Unis avant de signer l'accord de Paris, la Chine, elle, semble respecter et semble finalement vouloir jouer un rôle moteur dans la protection de l'accord de Paris et dans la lutte contre la dégradation climatique.
Oui, alors ça, c'est aussi un des éléments qui a permis le succès de l'accord de Paris. Sans cet accord entre Chine et États-Unis à l'aube de la COP 21, il n'y aurait pas eu d'accord à Paris, ça c'est certain. Donc ce binôme qui a été le binôme responsable du renversement en 2009 à Copenhague a aussi permis la signature des accords de Paris. Alors ça a surpris tout le monde effectivement, mais la Chine a une réflexion de longue date sur ce sujet qui est selon moi principalement portée non pas par des exigences environnementales, mais plutôt par une réflexion de long terme sur la capacité du régime chinois à se maintenir dans le temps. C'est un régime, on le sait, autoritaire. Mais l'environnement fait partie des sujets de contestation possibles et le pouvoir chinois s'est rapidement rendu compte qu'effectivement, s'il ne prenait pas en compte le problème de la pollution atmosphérique et les revendications, mais qui n'émanent pas uniquement de la classe moyenne qui s'est fortement développée en Chine ces dernières années, il allait droit dans le mur. Donc il a été obligé d'intégrer ces revendications et ce problème de la pollution de l'air, qui est d'ailleurs un fléau sanitaire assez important. Donc il a dû faire ce changement de trajectoire et c'est pour cela qu'il s'est investi dans la transition énergétique. En grande partie, c'est pour préserver sur le long terme son assise et préserver le régime. Donc aujourd'hui, la Chine est le premier pays qui investit à la fois dans le solaire et dans le renouvelable. Elle compte pour à peu près la moitié des investissements dans le secteur des énergies renouvelables chaque année. Donc ça représente plus de 150 milliards de dollars. Et c'est une transformation heureuse pour la Chine, pour le régime chinois, mais aussi pour le monde, puisque on rappelle que la Chine est depuis maintenant plusieurs années le premier émetteur. Donc sans transition énergétique en Chine, il est difficile d'imaginer d'impacter ou d'avoir un effet levier important sur la réduction des émissions.
On sait qu'il y a 1 million de personnes qui meurent du fait de la mauvaise qualité de l'air en Chine chaque année, que vivre à Pékin correspond à fumer 2 paquets de cigarettes par jour, mais pour la première année, l'an dernier, il y a une baisse de la dégradation de l'air, il y a une amélioration de la qualité de l'air à Pékin. Donc les Chinois ne veulent pas contester le régime, ils peuvent contester certaines actions du régime, et c'est donc en grande partie pour des questions de politique intérieure, si on vous entend bien, que la Chine a pris ce tournant vert.
En tout cas, c'est ma conviction. Je pense qu'effectivement, le pouvoir a compris que négliger cette composante de la réalité le mettrait en porte-à-faux et risquait de menacer à terme tout simplement sa pérennité. Donc l'impact, il est important, puisque aujourd'hui donc la Chine est le premier porteur d'investissement sur les renouvelables, donc premier pays à installer des nouvelles capacités de production d'électricité renouvelable. Après, il faut bien comprendre que bien que ça soit la locomotive des investissements dans les énergies renouvelables, ça reste un pays qui continue d'investir aussi dans le charbon et dont la contribution à l'effort de réduction est pour l'instant limitée. Je rappelle que la Chine ne fait pas partie des pays qui doivent, eux, absolument respecter un objectif de réduction d'émissions. Ils ont proposé une contribution qui est d'atteindre leur pic d'émissions à horizon 2030. Donc ça veut dire que globalement, les émissions vont continuer à augmenter jusqu'en 2030. Donc ça aussi, c'est un problème.
Si la Chine s'occupe de la lutte contre la dégradation du climat pour des raisons d'opinion publique, en France, le gouvernement a renoncé à certains objectifs du fait d'une protestation populaire. Est-ce que, grosso modo, mis à part cet épisode gilet jaune qui est très spécifique sur l'augmentation du prix du gasoil et de l'essence pour les voitures, est-ce que la France, dépositaire des accords de Paris, est un bon élève ou est-ce qu'il y a plus de propos que de réalisations dans l'engagement de la France contre la dégradation climatique ?
La France reste un pays, à mon avis, empêtré dans la question nucléaire. Pour l'instant, parmi les pays développés, l'empreinte carbone de la France est relativement bonne, principalement en raison de son mix électrique, hein, qui repose à 75% sur le nucléaire qui n'émet pas de CO2. Donc ça reste un bon élève en termes d'émissions, mais dont le modèle électrique est contesté, notamment en raison des risques qu'il fait peser à l'avenir avec la vétusté des centrales. Donc c'est vraiment un pays, on est le seul pays au monde à avoir ce mix électrique à 75% nucléaire. Donc la voix de la France compte, elle bénéficie effectivement des effets de ce mix électrique particulier. Le président Macron a d'ailleurs essayé de prendre le leadership. Je pense que son idée au niveau international était de remplacer peut-être un petit peu le siège laissé vide par les États-Unis. Il y avait ce binôme États-Unis-Chine qui fonctionnait bien. Évidemment, depuis l'élection de Donald Trump, ça n'est plus le cas. Il y avait cette volonté de prendre un petit peu cette place-là. Après, je crois qu'aujourd'hui, malgré le fait que la France reste une puissance qui compte, la France n'a pas le pouvoir transformationnel et d'influence des États-Unis. Donc, il est difficile pour elle de jouer ce rôle-là. Sur la scène interne, il y a eu effectivement des reculs, mais qui sont sont liées aussi à mon avis, à une composante essentielle de la transition énergétique, et ça vaut pour tous les pays. Je crois que la transition énergétique ne peut pas faire l'économie de la justice sociale, et ça, malheureusement, je crois que notre gouvernement s'en est rendu compte peut-être un peu tard, sans justifier des débordements récents. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer. C'est aussi une revendication, d'ailleurs, hein, des pays en développement qui veulent, par exemple, qu'on prenne plus en compte les émissions par habitant. La Chine aussi souvent utilise cet argument. Nous sommes l'atelier du monde, nous produisons énormément de marchandises qui sont consommées en Europe et aux États-Unis. Il faut aussi compter les émissions de ce point de vue-là.
Mais est-ce que les engagements au-delà de l'affaire de la transition énergétique, est-ce que la France est un pays qui respecte les engagements auxquels elle a elle-même souscrit à Paris par la suite?
Alors pour l'instant, pas forcément très très bien, puisque je crois que les émissions françaises ont réaugmenté légèrement ces dernières années. Donc oui, la France fait partie des pays pointés du doigt, parce que malgré son prestige et son investissement dans les négociations climatiques, sa position de ce point de vue-là n'est pas exempte de tout reproche. C'est souvent une critique qui lui est adressée. Bon, c'est pas le seul pays dont les émissions réaugmentent aujourd'hui, mais c'est là aussi un petit peu le drame ces dernières années, c'est qu'on pensait que les émissions avaient atteint un palier puisqu'elles stagnaient ces trois dernières années, et elles sont reparties légèrement à la hausse l'année dernière et l'année d'avant. Donc la France a aussi contribué à ce rehaussement des émissions.
Il y a un pays dans lequel la composante écologique est très forte politiquement, l'Allemagne, et pourtant, pour des questions de voitures diesel, la force de l'Allemagne, c'est l'industrie chimique et l'industrie automobile qui ne sont pas réellement des modèles pour lutter contre la dégradation climatique. L'Allemagne, malgré cette tradition d'un parti vert très fort, n'est pas non plus un très bon élève.
Non, et l'Allemagne est l'exemple type du pays qui est empêtré dans ses contradictions.
Et on peut dire aussi, ce qui a lui a été reproché, c'est qu'elle a fermé ses centrales nucléaires pour réutiliser du charbon, ce qui là aussi vient contribuer à la dégradation.
Oui, c'est encore une fois, c'est l'exemple type du pays qui est empêtré dans ses contradictions, c'est-à-dire la décision unilatérale de sortie du nucléaire qui a été prise après la catastrophe de Fukushima, donc où il y a plusieurs, alors pas l'intégralité des réacteurs allemands, mais je crois qu'il y a à peu près un tiers ou un peu plus des réacteurs qui ont été fermés. Peut-être permis de sauver des vies s'il y avait eu des accidents nucléaires dans le futur, personne ne pourra le dire, mais en tout cas, c'est accompagné d'une augmentation de la production d'électricité à partir de la ligne Nikt, qui est un minerai dont l'Allemagne dispose en grande quantité, et qui a des impacts nocifs sur les rejets de gaz à effet de serre. Donc, à la fois, c'est un pays qui a beaucoup investi aussi dans la transition énergétique, ça c'est une certitude, ça fait partie des pays leaders en Europe, mais qui, dans une certaine forme de contradiction, fait augmenter en même temps, dans son mix énergétique, la consommation d'une ressource que, par exemple, la Banque mondiale a décidé d'arrêter de financer il y a maintenant plusieurs années. Donc, c'est la défense du modèle industriel et allemand qui pousse aussi le gouvernement à prendre ce type de décision. Et bon, c'est le cas dans plusieurs pays. La Pologne en est un bon exemple, mais la France aussi.
Si on continue vers l'Est, la Russie qui, dont on dit parfois qu'elle aurait intérêt au réchauffement climatique puisque ça lui prendrait des perspectives nouvelles, qui en plus compte énormément sur le gaz et le pétrole parce que ça fait les deux tiers de ses recettes d'exportation et qui donc a une attitude un peu ambiguë par rapport aux accords de Paris.
Oui, sachant qu'en plus la Russie est un pays clé dans les négociations, je me permets de rappeler, parce que je pense que c'est fondamental, que si on a signé le protocole de Kyoto dans les années 90 et qu'il est rentré en vigueur, c'est en grande partie grâce aux Russes qui ont pris le relais des Américains. Quand les Américains ont décidé de ne pas le ratifier, les Russes se sont portés en sauveur, mais à leurs conditions, en demandant effectivement que soit utilisé comme année de référence pour la réduction des émissions, 1990, une année qui précédait l'effondrement économique de la Russie, effondrement économique qui a fortement réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Donc finalement, quand le protocole est rentré en vigueur, les Russes avaient déjà atteint leur objectif. Donc ça, c'est une habileté de la Russie. Et aujourd'hui, la Russie n'a toujours pas ratifié les accords de Paris. Hein, elle regarde, elle s'est permis évidemment de critiquer la décision de Donald Trump d'en sortir sans avoir elle-même ratifié le texte. Donc c'est un pays qui est très attentiste, qui regarde ce qui se passe, qui s'adapte aussi au contexte changeant et au rapport de force dans les négociations. Et effectivement, qui devra de toute façon entamer sa mue économique, puisque, comme vous l'avez dit, les exportations russes sont largement dominées par les hydrocarbures, et c'est quelque chose qui va devoir être remis en question par le pouvoir russe dans les années qui viennent. C'est quelque chose que commencent à faire d'autres pays, hein, comme les pays du Golfe d'ailleurs, qui en sont obligés, hein, puisque eux dépendent quasiment à 100% de ces produits-là d'exportation. Dans le contexte des négociations, d'ici quelques années, ils ne pourront plus avoir de voix audible dans ce processus s'ils ne réforment pas et s'ils ne diversifient pas leur économie.
Où en est la situation, puisque vous l'abordez, des pays du Golfe, on sait que ils réfléchissent tous un peu aussi pour des questions économiques de l'après-pétrole, parce que le pétrole n'est pas inépuisable. Comment les pays du Golfe, qui sont dont la richesse, la prospérité et l'influence tient beaucoup au pétrole, comment ils abordent cette question-là, et est-ce qu'il y a, on sait qu'ils sont très divisés, est-ce qu'ils ont également des réponses nationales différentes par rapport à cet enjeu?
La réponse nationale, elle est, je pense, comparable dans plusieurs pays qui ont élaboré des plans de réflexion à long terme. C'est le plan Vision 2030 en Arabie Saoudite, par exemple, où on essaye de penser la ville de demain, la ville du futur, écologique, avec le moins de consommation possible, avec une efficacité énergétique optimale, une fourniture d'électricité à 100% renouvelable. Donc ça, c'est pour la projection et les projets existants. Dans la réalité, ça reste quelque chose d'assez éloigné, hein, puisque l'Arabie Saoudite doit être un des seuls pays, enfin avec ses homologues du Golfe, à produire son électricité à partir du pétrole à 50%. Pour la plupart des pays, c'est une hérésie de brûler du pétrole pour fabriquer de l'électricité. Donc, elle est encore très très dépendante. C'est pas parce qu'il y a une réflexion qui est lancée qu'on observe une diversification en termes de production industrielle ou de biens d'exportation. Donc, aujourd'hui, il y a cette crainte de voir le déclassement à l'horizon, tout simplement parce que le modèle économique est remis en question. Mais dans les fondements encore, les changements sont assez peu perceptibles. Il y a des projets, par exemple la cité, la smart city du roi Abdallah qui est en construction dans le désert. C'est quelque chose d'important effectivement. Par contre, on voit assez peu point de la diversification économique aujourd'hui. Qu'est-ce que produit l'Arabie Saoudite à part du pétrole et des hydrocarbures? C'est un petit peu difficile de le déterminer.
Il y a un autre géant dont la contribution négative ou positive peut être déterminante, c'est l'Inde. L'Inde qui semble un petit peu en retard quand même et qui a de longue date justifié par son sous-développement le fait de ne pas prendre d'engagement contraignant et ne pas s'impliquer de façon très active dans la lutte contre la dégradation climatique.
Alors l'Inde est un pays intéressant puisque c'est un pays clé aujourd'hui des négociations climat. Effectivement, elle compte parmi les pays qui ne sont pas obligés de réduire leurs émissions puisque c'est un pays en développement, hein, un pays qui ne fait pas partie de l'annexe 1 au titre de la Convention climat. Elle a proposé une contribution à l'effort mondial de réduction des émissions, mais qu'elle n'est pas obligée de respecter, du fait de ce statut de pays en développement. Donc, elle est aujourd'hui dans cette position hybride où, à la fois, elle aime être considérée comme une puissance, mais considérée comme un pays en développement, du fait qu'elle doit sortir quand même plusieurs millions de personnes de la pauvreté, et que c'est un pays...
Mais c'était le cas de la Chine auparavant, et la Chine a pris un autre virage.
C'était le cas de la Chine auparavant. Alors, l'Inde est aussi un des investisseurs qui monte en matière de renouvelables, notamment en matière de solaire. C'est le Premier ministre Narendra Modi aussi qui a initié cette alliance solaire au moment de la COP 21. Donc, il y a des efforts qui sont faits quand même dans l'investissement et dans l'installation de capacités solaires, d'ailleurs sur certaines prévisions. Parce que l'objectif de l'Inde, elle a proposé, elle, de réduire l'intensité carbone de son PIB, donc le nombre d'émissions par point de PIB. Selon certaines estimations, elle serait capable d'atteindre ses objectifs même avant son calendrier. L'idée étant qu'elle produise à peu près 40% d'électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Elle serait en mesure d'y arriver, selon certains, à 2020, grâce aux investissements fournis dans la transition énergétique et l'installation de capacités renouvelables. Par contre, le charbon continue aussi d'être quelque chose de développé dans une assez grande mesure. Mais le discours de l'Inde qui est intéressant, c'est effectivement toujours cette stratégie de mettre en avant les émissions par tête en disant « nous ne pouvons pas sacrifier sur l'autel du climat notre développement économique », sachant qu'encore une fois, le concept de responsabilité commune mais différenciée, qui est clé dans les négociations climat, hein, qui fait porter l'effort de réduction principalement aux pays historiquement responsables, hein, donc les pays qui ont connu la révolution industrielle, c'est quelque chose qui a toujours mis en avant l'Inde et qui reste fondamental dans, on va dire, l'agencement des rapports de force au sein des négociations.
Alors, si on fait un bilan rapide, est-ce que dans le respect des accords de Paris, dans leur mise en œuvre, est-ce qu'il y a des bons élèves et des mauvais élèves? Est-ce que vous pourriez établir un peu les prix citron, les prix orange? Quels sont les pays qui se distinguent de façon positive et ceux qui se distinguent de façon très négative?
Ouais, globalement, de toute façon, on attend tous, de la part de tous les pays de l'annexe 1, donc les pays développés qui doivent augmenter leurs émissions, des efforts. Donc je dirais que pour l'instant, il y a assez peu de pays qui jouent le jeu, Parce qu'encore une fois, on est sur cette trajectoire 3,2 alors qu'on veut une trajectoire 2 degrés, voire 1,5, donc l'effort est énorme à faire. Donc je dirais que les mauvais élèves sont évidemment ceux qui sont trop dans la défense de leur modèle industriel ou économique. Alors en Europe, ça peut être effectivement la Pologne ou l'Allemagne. L'Afrique du Sud aussi est un pays intéressant, puisque pays africain aime à se présenter comme une puissance régionale, voire une puissance mondiale hein, dans le cadre des BRICS, mais quand ça l'arrange aussi, aime à apparaître comme un pays en développement pour attirer des financements, etc. C'est un pays minier. Hein. Donc l'Afrique du Sud à regarder. On attend aussi beaucoup du Brésil, parce que c'est un des leaders de demain. Donc il y a des mauvais élèves dans les deux camps, c'est-à-dire dans les camps des pays en développement et dans le camp des pays développés. Mais l'idée, c'est de porter un effort global qui reste raisonnable avec un fonds de justice et d'équité, puisque si on doit préserver la justice intergénérationnelle, la justice intragénérationnelle est aussi importante.
Merci Bastien Alex pour ce tour d'horizon des pays et de leurs efforts ou de leurs non-efforts dans la lutte contre la dégradation climatique, le tout sur fond de la COP24 qui se tient à Katowice et qui se termine le 14 décembre.